Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode consacré aux questions posées par le prélèvement d'organes. Savoir quelle est notre position vis-à-vis du prélèvement d'organes, savoir si l'on souhaite donner ses organes après sa mort, revient à imaginer ce que pourrait devenir notre corps après notre décès. De la même manière qu'on parle du mode de sépulture qu'on souhaiterait, l'inhumation ou la crémation, donner ses organes est donc une question qui concerne un avenir au-delà de notre expérience et qui nous apparaît donc toujours théorique. En revanche, pour les familles des défunts qui ne se sont jamais exprimées sur le don d'organes, il est beaucoup plus difficile d'aborder la question. Au moment où la question se pose à la famille, elle vient d'apprendre le décès. Cette annonce faite aux proches est le point de départ d'un processus de deuil parfois très soudain. Ils sont confrontés à une situation concrète et c'est à ce moment qu'il leur faut en plus penser à ce que le défunt aurait souhaité concernant le don d'organes. Pour eux, ce n'est pas une réflexion théorique ou une projection imaginaire, mais ils sont face à une question concrète qui va avoir des conséquences. Les soignants qui travaillent à la coordination du prélèvement d'organes et de tissus doivent à la fois prendre soin des familles et des défunts eux-mêmes. Le défunt est considéré comme un patient et le respect de la dignité de ce défunt est au centre des pratiques. Pourtant, cette forme de dignité n'est pas toujours facile à comprendre. Elle ne ressemble pas à la dignité associée à la vie qui se définit par le respect de l'autonomie. Le cadavre représente la personne, il ne peut jamais être traité comme une chose. Et précisément, l'inquiétude pour l'intégrité du corps du défunt est souvent questionnée. Penser la réalité du corps en tant que cadavre est une épreuve qui peut être un frein dans la réflexion sur le don d'organes. Comment le corps sera-t-il traité? Risque-t-on d'effacer la personne derrière les organes ou de ne pas pouvoir retrouver la dépouille de son proche pour les rites funéraires? Je poursuis la discussion que nous avions commencée dans la première partie avec mes invités. Marie-André.
Oui, infirmière à la coordination du prélèvement d'organes et tissus sur le CHU de Toulouse. Bonjour.
Et Xavier Bioy.
Professeur de droit public à l'université Toulouse-Capitole, co-directeur du master éthique, soins et recherches.
Et Guillaume Ducot.
Médecin anesthésiste réanimateur et coordinateur des prélèvements d'organes et de tissus au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Récemment, il y a eu une histoire diffusée par un média américain, même si à ce jour, l'histoire n'est pas vraiment documentée, elle aurait eu apparemment un impact très important sur le nombre des refus de prélèvement en France. Cette histoire, c'est celle d'un homme qui se serait réveillé au moment même où on allait prélever son cœur. Donc on comprend que cette histoire, elle met en doute la compétence médicale à déterminer une mort et sans doute dans le contexte d'une mort encéphalique. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui en France de se tromper en déclarant une personne morte alors qu'elle est encore vivante?
Non. Là, je me permets une réponse brute. La réponse est non. En France, la législation entend la définition de la mort encéphalique comme l'association de l'absence totale de réactivité neurologique à l'examen clinique, et ce, dans des conditions très particulières, c'est-à-dire des conditions de température corporelle, des conditions d'arrêt des produits anesthésiques qui pourraient mimer une altération de cette fonction cérébrale. Et ça, encore une fois, les infirmières de coordination sont extrêmement attentives au cadre dans lequel est posé le diagnostic clinique. Mais arrêtez-moi si je me trompe, mais la loi française dit que la mort doit être irréversible. Or, en France, nous avons des examens paracliniques de confirmation de cet état de mort encéphalique. Et la mort ne peut être déterminée, diagnostiquée qu'à l'issue de cet examen. Donc cet examen, c'est ou un scanner cérébral avec injection de produits de contraste qui montre un arrêt circulatoire cérébral, c'est-à-dire un arrêt de la perfusion, donc des artères qui montent au cerveau, mais aussi des veines qui drainent le contenu sanguin cérébral. Donc l'arrêt de la perfusion cérébrale associé à l'arrêt de la fonction cérébrale diagnostiquée, les deux signent l'arrêt du cerveau et c'est l'irréversibilité de l'arrêt du cerveau. L'autre examen qu'on peut réaliser, c'est un électroencéphalogramme qui doit être répété deux fois, donc deux électroencéphalogrammes à 4 heures d'intervalle, qui doivent être nuls et aréactifs, c'est-à-dire qu'ils prouvent l'absence totale d'activité électrique du cerveau. Dans le cas que vous citez, on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, où le diagnostic d'état de mort encéphalique, alors je ne suis pas un spécialiste, c'est aux États-Unis, ça se passe dans le Wisconsin, il me semble. Je ne suis pas un spécialiste des textes de loi, d'autant qu'il me semble qu'ils changent en fonction des états. Mais en tout cas, il n'y a pas de confirmation paraclinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen à part l'examen clinique du malade. Donc en France, cette situation est absolument inconcevable.
C'est-à-dire donc, on comprend que pour vraiment déterminer médicalement une mort, on est en recherche de preuves de cette mort et de l'absence d'activité, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Nous, notre rôle en tant que coordinatrice, c'est aussi de récupérer tous les comptes rendus dont parlait Guillaume, c'est-à-dire le test clinique et le compte-rendu paraclinique de l'angioscanner. Et aussi, le PV de constat de mort est signé par deux médecins thésés.
D'accord.
Appartenant à des équipes différentes de celles qui pourraient prélever, de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts aussi entre des patients qui attendraient d'un côté et des médecins qui seraient tentés de l'autre de prélever pour satisfaire ces patients. Et il n'y a pas de rémunération à l'acte. C'est-à-dire que ce n'est pas en multipliant les prélèvements que le médecin gagnera mieux ou que l'hôpital gagnera mieux sa vie.
Oui, puisque c'est dans le cadre hospitalier, ça c'est possible. Ce qui ne serait pas possible peut-être dans un cadre privé.
Voilà, il n'y a pas d'incitation absolument à ce qu'on prélève coûte que coûte, ce qui amènerait peut-être à des fraudes ou à des contournements des règles de sécurité.
Alors je vais être parfaitement transparent. Nous, la valorisation de notre activité est faite au recensement du nombre de donneurs, c'est-à-dire à l'identification dans les services de donneurs potentiels. Et non à la réalité du prélèvement ou à un nombre ou une quantité d'organes. Donc, ce qui est valorisé par l'État via des guidelines de l'Agence de la biomédecine, c'est la filiarisation, en fait. C'est-à-dire la compétence, la culture, la reconnaissance et ce dont on parlait tout à l'heure, cette obligation qui est faite à toutes les unités de soins critiques de recenser les donneurs potentiels. C'est ça qui valorise notre activité et non pas l'effectivité d'un prélèvement.
Donc ça change complètement votre activité, mais ça ne change pas la manière dont le travail est reconnu.
Ça veut dire surtout qu'on a nous-mêmes, à l'échelle de la coordination, nous n'avons pas de conflit d'intérêts au prélèvement. Nous sommes là pour accompagner des patients en fin de vie et des familles endeuillées dans un projet digne qui peut passer par le don d'organes si le patient ne s'y était pas opposé.
D'accord. Je reviens sur l'histoire dont on parlait. Donc on comprend bien que ce serait impossible en France, mais je reviens sur l'aspect non documenté parce que finalement c'est un article sur les dires d'une infirmière, mais enfin, c'est pas très clair. J'ai vraiment essayé de chercher la source et c'est vraiment pas très clair, mais ça a été beaucoup relayé. C'est ça qui a causé cet impact. Et j'ai l'impression que le point de départ, c'est aussi le fait que il y a une difficulté pour les personnes qui ne sont pas dans le milieu médical, en tout cas, à être confrontées à la situation de mort encéphalique, parce que c'est une situation qui met à l'épreuve notre perception de ce qu'est la mort, puisque le défunt n'a pas une apparence cadavérique, c'est ça ? Je suppose que c'est quand même une difficulté qui se pose régulièrement pour vous, Marie, dans votre pratique.
C'est vrai que la famille peut nous verbaliser que le corps est encore chaud, son cœur fonctionne toujours. Il le verbalise, mais il y a quand même une compréhension par rapport à ces lésions cérébrales qui sont irréversibles, où ils ne voient pas bouger leurs proches aussi. Il n'y a pas de réaction, il n'y a plus de réaction en fait. Ils nous le verbalisent, mais en comprenant, il y a une compréhension des lésions irréversibles au niveau cérébral.
D'accord.
C'est vrai qu'il y a cette image aussi où on peut mourir de l'arrêt du cœur, mais aussi de l'arrêt du fonctionnement du cerveau. Mmh. Cette compréhension aux entretiens, c'est vrai, après les explications médicales, elle est comprise.
D'accord, d'accord. Parce que le moment de recueillement, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire une fois que le décès est annoncé et qu'on propose aux familles de se rendre auprès du défunt, là, il y a la confrontation avec une personne qui n'est pas dans ce qu'on peut imaginer comme la mort. Donc ça doit quand même... voilà. Mais vous êtes là pour accompagner finalement cette compréhension d'un décès particulier.
Oui, on peut être amené à reverbaliser, mais c'est souvent quand même en collaboration avec les médecins. La partie de la mort encéphalique et la compréhension.
Ouais.
Et avant d'aborder le don, on s'assure qu'il y ait une bonne compréhension de la mort encéphalique avant l'abord du don. Si on a la sensation qu'il faut reprendre au début du deuxième entretien quand même pour s'assurer que tous les membres de la famille et des proches présents aient tous bien compris et qu'il n'y ait pas d'incompréhension ou de doute, on demande aux médecins de reprendre quand même, de questionner et voilà. Mmh. On s'assure toujours de ça avant d'aborder le don.
Il n'est pas question d'aborder le don auprès d'une famille qui n'a pas compris la réalité de la mort dans le concept de mort encéphalique. C'est vrai que la mort encéphalique peut paraître un petit peu conceptuelle, parce qu'on s'éloigne de la représentation sociale habituelle du mort froid qui ne respire pas. Mmh. Le patient en état de mort encéphalique a une ventilation qui est provoquée par la machine, mais ce que la famille voit, c'est un thorax qui se soulève.
Oui.
Donc c'est l'impression de la respiration, en tout cas. Ce qui est important de noter, c'est que dans la littérature médicale, les familles qui ont les deuils les plus pathologiques sont les familles qui n'ont pas compris la réalité de la mort dans le concept de mort encéphalique. C'est les familles qui n'ont pas compris ce concept-là. Ce sont des familles qui vont présenter beaucoup plus de stress post-traumatique, de deuil pathologique et d'anxiété et dépression.
D'accord.
À l'issue des prises en charge. Donc il y a vraiment une dynamique d'accompagnement qui est extrêmement nécessaire auprès de ces familles-là. Et la coordination est présente auprès de ces familles, qu'il y ait un projet de don ou qu'il n'y ait pas de projet de don.
Ah oui.
Oui, on prend toujours le temps avec les proches, même s'il y a une opposition rapportée, de répondre à leurs questions. Souvent, il y a beaucoup de questions au niveau administratif, les démarches qu'ils doivent effectuer après, et on les accompagne toujours.
Lorsqu'une personne est prélevée, donc que ses proches ont accepté ou ont dit que le défunt aurait accepté le principe du prélèvement, comment se déroule la répartition des organes ?
Peut-être poser le cadre légal général et après, comme des éléments assez techniques, je pense que les soignants ici pourront compléter. Moi, j'aimerais insister sur le côté politique public quand même du don d'organes. Le Code de la Santé précise que le prélèvement de greffe constitue une priorité nationale et tout est fait, comme ça a été dit, pour créer des réseaux et pour que ces éléments circulent le plus possible. Il y a même une journée nationale de reconnaissance envers les donneurs, qu'ils soient décédés ou vifs. Et il y a un frein quand même principal qui est l'extrapatrimonialité du corps humain. Si on pouvait rémunérer le don, que ce soit pour les familles des défunts ou que ce soit pour les personnes vivantes qui donneraient un de leurs organes, sans doute ça circulerait davantage s'il y avait un capitalisme du don d'organes. Or, ce n'est pas le cas en France. On mise sur le principe de solidarité, je dirais même sur le principe de biosolidarité, c'est-à-dire que ces éléments sont, en dépit des éléments éthiques qui ont été avancés par le docteur Ducot, ce sont des éléments de ressources pour l'État, ce sont des ressources de soins et ce sont des ressources qui doivent être maximisées dans la mesure du possible, pas incitées, mais maximisées. Et il ne faut pas qu'il y ait de perte, d'une certaine façon, d'organes qui pourraient être utilisés et qui ne le sont pas. Donc tout est fait pour rationaliser le processus. Et puis il y a ce principe d'équité, donc, qui nourrit principalement cette biosolidarité. Alors, qui est un concept plus général, qui porte sur tous les éléments du corps humain, tout ce qui peut servir à la fois pour la recherche et pour le soin. Mais là, spécifiquement pour le don d'organes, il y a un principe d'équité qui est concrétisé par l'Agence de la biomédecine, qui a en charge l'organisation de la qualité, de la sécurité du processus, mais également la répartition répartition donc des greffons, selon des règles qui ne sont pas fixées par la loi, qui se contentent de parler d'équité, et qui sont donc vraiment l'objet de lignes directrices de la part de l'Agence de la biomédecine, qui sont accessibles sur son site, mais qui sont pour un juriste assez complexes à lire, puisqu'on y voit bien qu'il y a un score, on chiffre, on objectivise l'intérêt d'un prélèvement et l'intérêt pour le patient de recevoir ce don, et ensuite un algorithme paramétré sur la base de ce score permet d'avoir une affectation relativement objective. Alors vous avez une répartition territoriale d'abord, on fait au plus proche à la région, puis après
d'accord.
au niveau interrégional, puis éventuellement au-delà, jusqu'au donc, au réseau européen où qu'on peut saisir, avec des délais de réaction des équipes qui pourraient recevoir cet élément avec un patient qui est en attente, qui doivent dans les 20 minutes, enfin ça dépend des types de prélèvements, répondre si oui ou non ils sont prêts à recevoir cet organe dans les bonnes conditions. Ensuite, vous avez une priorisation en fonction du type de patient qu'ils doivent recevoir et en fonction du type de greffe que l'on peut faire. Alors, je crois comprendre, je parle sous le contrôle, ça pourrait être précisé, que lorsqu'il y a deux organes, un bloc, par exemple cardiaque et cœur et poumon, qui est nécessaire, on va donner priorité à ces patients-là. Mmh. Ensuite, il y a des exigences liées à l'âge. Les enfants sont prioritaires en principe. Puis, il y a une question de rareté aussi de l'organe en fonction de l'attente et puis surtout de l'urgence du patient. Donc c'est urgence, rareté, âge, priorité au bloc, et puis ça va dépendre après de chaque type d'organe et de ses spécificités physiologiques, de la possibilité du transport, etc. Donc c'est assez complexe, de façon à ce qu'il y ait une forme d'objectivité des règles qui sont appliquées, mais c'est vrai que c'est pas d'une totale transparence malgré tout dans le fonctionnement de l'Agence de la biomédecine, parce qu'il y a une très grande complexité des règles qui ne sont pas compréhensibles par tous. Il n'y a pas un principe simple d'attribution, et il y a des priorisations assez complexe.
Et en plus, il y a une question de temps qui se pose, c'est-à-dire l'Agence de la biomédecine, je suppose qu'elle fait la répartition dans un temps extrêmement limité.
Oui, il faut une réactivité très, très, très importante des équipes qui sont capables de recevoir. Puis il y a toute l'infrastructure du déplacement après de l'organe, par hélicoptère ou par voiture.
Ce temps de répartition peut être assez long. Parce qu'il faut se rappeler que c'est important de le redire. Un organe n'est pas prélevé s'il n'a pas de receveur qui soit prêt. Il n'y a pas de banque d'organes, il n'y a pas de réserve d'organes. Chaque organe est prélevé à dessein pour un receveur qui est identifié au moment du prélèvement. Mm-hmm. Donc ça, c'est une première chose. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit Xavier, parce qu'il l'a dit beaucoup mieux que je pourrais le faire. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est la notion de compatibilité, d'histocompatibilité, qui vient encore complexifier cela. Donc, on a tous en tête le groupe ABO, les groupes sanguins.
Oui.
Maintenant, il est possible de faire des greffes pour certains organes ABO incompatibles, c'est-à-dire sur des groupes sanguins différents, mais il y a tous les facteurs majeurs d'histocompatibilité, le facteur HLA, donc qui est notre carte d'identité génétique.
D'accord.
Et on va chercher aussi un receveur qui soit le plus proche du donneur en termes d'histocompatibilité pour minimiser le risque de rejet.
Mmh.
Donc ça rentre aussi dans la notion de hiérarchisation, c'est-à-dire que le receveur qui va sortir en premier sur la liste pour l'Agence de la biomédecine, c'est un receveur qui attend de manière urgente, qui est dans un état sévère, ça c'est le score organe, qui est compatible et pour lequel la durée d'acheminement du greffon est aussi compatible avec la survie ex vivo du greffon. Et cette survie ex vivo du greffon, elle dépend du greffon.
Mmh.
C'est-à-dire qu'un cœur doit être greffé dans les 4 heures qui suivent son prélèvement. Un rein peut attendre 18 heures.
Ah d'accord.
Donc les distances qui sont couvertes ne sont pas du tout les mêmes, et donc ça change aussi toute la coordination. Ça, c'est vraiment le travail de Marie, l'organisation de faire venir les équipes, etc.
Juste pour le dire d'une autre manière, donc on parle souvent des listes d'attente concernant les greffons, mais finalement, il y a des... C'est un petit peu comme quand on va aux urgences et qu'on dit « Ah, j'ai attendu 4 heures ou 6 heures ». En fait, c'est que ce n'est pas dans l'ordre d'arrivée.
Non, il y a une hiérarchisation en fonction d'éléments d'histocompatibilité, il y a des groupes sanguins qui sont plus rares que d'autres et donc les patients sont susceptibles d'attendre malheureusement plus longtemps que d'autres la survenue d'un donneur du même groupe qu'eux. Il y a des questions de distance. Il y a effectivement, vous parliez des dons pédiatriques, priorité est donnée, donc même les adultes jeunes qui sont anatomiquement compatibles avec des enfants, la priorité va être donnée à la greffe pédiatrique et même à l'échelle européenne.
Oui, alors finalement, Marie, vous avez aussi à organiser la venue des équipes de prélèvement, c'est ça, si je comprends bien. Et donc, il y en a qui viennent d'Europe, enfin, ça arrive.
On rencontre des équipes d'Europe, surtout sur des dons de pédiatrie.
D'accord.
Par rapport à... Il y a moins de receveurs, donc c'est vrai que la recherche de receveurs s'étend un petit peu plus. C'est vrai qu'on a des répartitions qui peuvent être assez longues.
D'accord. Et vous organisez donc la venue et le prélèvement en tenant compte de ces délais.
Oui, voilà.
De en viabilité fait, des organes.
Nous, on n'a aucune visibilité sur la répartition. Enfin... sur les équipes de greffe qui sont contactées. En fait, nous, on a juste un tableau où on voit des zones...
géographiques.
Géographiques, merci.
Oui, vous savez d'où vont venir les personnes.
Voilà.
Mais est-ce que vous savez à quel patient est destiné l'organe ?
Pour le respect de l'anonymat, nous ne savons pas, nous n'avons pas d'informations sur le receveur. On sait juste, forcément, vu que l'équipe va se déplacer au niveau de notre bloc, on sait quel centre de greffe est affecté, mais on n'a aucune information concernant le receveur par rapport à l'anonymat.
Les filières sont étanches. C'est-à-dire que la filière de don, prélèvement et la filière de greffe sont strictement étanches, et ce qui fait la jonction entre ces deux filières, c'est l'Agence de la biomédecine, qui va, elle, être garante de cette étanchéité. Et l'étanchéité va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que les équipes de greffe ne connaissent pas l'identité du donneur. L'identité est anonymisée via un logiciel national qui s'appelle Cristal. Et donc on lui accorde, l'Agence de la biomédecine lui donne un numéro Cristal. Une partie du travail des infirmières coordinatrices, c'est d'implémenter le dossier Cristal avec toutes les informations concernant le donneur que les équipes de greffe dont les équipes de greffe vont avoir besoin. Notamment les examens pour une équipe de transplantation cardiaque, par exemple, le résultat de l'échographie cardiaque, le résultat de la coronarographie, le résultat des enzymes cardiaques. Et ces éléments-là vont permettre à l'équipe de greffe d'accepter ou de refuser in fine, s'il y a une répartition par l'Agence de la biomédecine, qui va donc sortir le nom d'un receveur. L'Agence de la biomédecine va contacter l'équipe médicale qui prend en charge ce receveur. L'équipe médicale va d'abord certifier que ce receveur est toujours sur liste, c'est-à-dire que, par exemple, il n'a pas une cause de contre-indication temporaire, une infection, que sais-je. Et ensuite, cette équipe de greffe va accepter ou refuser le greffon en fonction des éléments que l'équipe de coordination aura mis sur le dossier Cristal. Voilà. Jamais l'équipe de greffe prend son téléphone et passe un coup de fil à l'équipe de prélèvement. Ça n'arrive pas. Il n'y a pas d'intérêt mutuel entre les deux. D'accord ? C'est vraiment étanche.
Voilà. Merci beaucoup Marie-Andrée, Xavier Bioy et Guillaume Ducot. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse-Jean Jaurès.